Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Esprit Sport avec une seconde place au tournoi des 6 nations après un week-end où des voitures ne tournent pas en rond pendant plus d'une heure, après un week-end où les Violets ont fêté leurs 87 ans. Nous retrouvons une équipe au top aujourd'hui. Qui dit victoire du 15 de France dit Anne-Françoise Marie. Bonjour.
Oui, je suis là.
Oh là, elle est contente en plus.
Et oui. Bah oui.
On va taper les Anglais en dernier match à domicile, là.
Ça fait toujours plaisir.
Oh, bah c'est vrai, toujours un régal en tout cas. Il enchaîne les participations comme Vincent Sirot enchaîne les pénaltys avec le TFC. Bonjour Julien.
Bonjour Jonathan, bonjour à toute l'équipe.
J'ai vu pénalty Vincent Sirot, encore un ce week-end.
Appelé avec la Suisse d'ailleurs.
Appelé avec c'est la vrai. Suisse. Voilà, petite info qui paye pas de mine. Et puis vous l'avez entendu, il va sûrement nous donner son 15 type destination. C'est Erwan, content de le retrouver aujourd'hui, quoique content. Il a pris une petite fessée au tennis de table avant l'émission.
Mais au moins j'ai joué, je me suis pas dépité.
Et bien ça c'est l'esprit Coubertin qu'on aime bien dans l'émission.
Exactement.
Voilà, vous êtes là, c'est bien d'être là et de participer.
Je reviendrai perdre avec plaisir. Et gagner si possible quand même, c'est encore
oui,
plus.
Oui, attention, faut pas trop d'espoir non plus. Petit retour en arrière sur les performances sportives bonnes ou mauvaises de la semaine dernière, dans les tops et les flops de l'équipe d'aujourd'hui. Un nouvel entretien où nous parlerons de volant, de raquettes et de filet avec le sport. Mais avec quel sport? Eh bien avec le badminton. Nicolas Rose, président du Montobad, le club de badminton de Montauban, sera avec nous pour nous en dire plus sur sa discipline qu'on retrouvera aussi au JO l'été prochain. Un retour d'Anne-Françoise Marie qui signifie qu'il y aura une chronique. Elle nous l'a concoctée, elle arrive toute prête. On parlera d'équidé et de polémique dans quelques minutes. Que retenir de ce tournoi Destination 2024? C'est la question qu'on se posera, on essaiera d'y répondre. Et on terminera avec un pronostic et une analyse du match du week-end. Mais on commence tout de suite par l'information sportive de la région avec Corinne Saint-Félix. Tout de suite.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
Le héros du crunch, le France-Angleterre, se nomme Thomas Ramos.
Oui, repositionné ouvreur depuis le succès à Cardiff, le Toulousain s'est montré efficace samedi à Lyon-Décines pour l'ultime match du tournoi des 6 nations contre l'Angleterre. Victoire 33-31 avant de signer le coup de grâce d'une pénalité de 50 mètres. Ce 111e crunch a été marqué par un suspense insoutenable dans les derniers instants de la rencontre lorsque les Bleus ont hérité de la pénalité de la gagne au niveau de la ligne médiane. Ce samedi soir sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon, ils étaient 8 joueurs rouges et noirs, 6 titulaires et 2 remplaçants à porter les couleurs du 15 de France, ce qui en fait le club le plus représenté.
Déconvenu en championship pour le Toulouse Olympique 13.
La saison débute difficilement pour l'Olympique. Vendredi, l'équipe a retrouvé les terrains et le goût amer de la défaite. 22-24 dans l'antre de Sheffield. Les Toulousains ont marqué dès la première minute et se sont démenés toute la rencontre. Mais ils ont été à la peine après la sortie définitive de Paul Marcon pour plaquage haut.
Vendredi soir, le TFC s'est incliné 3-2 à domicile contre Lyon.
Alors qu'il pouvait prendre le large sur la zone de relégation et se rapprocher de la première partie du tableau. Les Violets se sont inclinés vendredi soir à domicile contre Lyon 3-2 dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Un match où les Violets n'ont pas démérité pour les 87 ans du club.
Nouvelle victoire pour les filles de Toulouse Métropole Basket.
Oui, les pionnières 4e ont brillé 90-65 devant leurs supporters contre le Champagne Basket féminin 10e. Une victoire essentielle pour rester dans la course des premières places.
Le miathlon des seniors n'attend plus que vous.
Oui, dans le cadre du passage de la flamme olympique, la ville de Millau et l'association Grand Cause Bénévolat organisent le premier miathlon des seniors. Le vendredi 10 mai, ce sera de 10h à 18h à la base de loisirs de la Maladrerie. Cette journée sportive gratuite, uniquement accessible sur inscription, est dédiée aux personnes âgées de 60 ans et plus. Les participants s'affronteront autour de nombreuses épreuves, dragon boat, tir à l'arc, foot, rugby, basket, hand ou encore pétanque.
Et la compétition de canoë-kayak slalom a rassemblé l'élite mondiale et la jeunesse française et espagnole à Pau.
La 14e édition de cette compétition, inscrite au calendrier international, a permis à des joueurs prodiges locaux de se frotter au gratin international. Parmi eux, un certain Titouan Estanguet. Rassemblant entre 200 et 350 athlètes d'une vingtaine de nations, elle permet aux jeunes kayakistes espagnols et français, dont les jeunes locaux du club de Pau ou du département, l'occasion de disputer deux compétitions de slalom et kayak cross sur deux bassins prestigieux auprès des meilleurs athlètes mondiaux. La Coupe internationale des Pyrénées de canoë-kayak en était à son deuxième week-end après une première manche à La Sole d'Orgel.
Merci beaucoup Corinne, qui pour la petite anecdote a eu du mal avec la compétition de canoë-kayak, voilà, qui voulait la renommer le canoë-kayak. Bon bref, c'est pas grave, ça s'appelle les off. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et honneur aux dames, Anne-Françoise, à vous, on vous écoute pour votre sélection du week-end.
Ah mais trop gentil. Mon top, ça va être de la course à pied. En fait, il y a eu un 10 km sur route là à Lille ce week-end et donc c'est un Français qui s'est imposé en 27 minutes et 7 secondes. Alors déjà moi rien que de dire ça m'épate en fait de savoir qu'on peut courir 10 km en 27 minutes. Et en plus il en a profité pour battre le record d'Europe. En fait, il a amélioré de 6 secondes le record d'Europe qu'il tenait depuis 2020. Donc voilà, c'est Jimmy Gressier qui est maintenant recordman d'Europe sur 10 km sur route. Donc petite dédicace à tous ceux qui ont profité du beau temps ce week-end pour aller courir leurs 10 km. Le font en beaucoup plus d'une heure.
oui, le 10 km. Ben, Corentin, qui est pas là ce soir mais qui le fait d'habitude, nous partage souvent ses exploits et il fait 10 km.
Eh oui, c'est ça. Et pour mon flop, je vais passer à du foot et un match en Turquie. Alors attention à la prononciation entre le Trabzonspor et Fenerbahçe, où en fait les supporters ont envahi la pelouse pour aller affronter en fait les joueurs, l'entraîneur. Enfin bref, ça a été la grosse baston. Et il y a eu 12 arrestations, figurez-vous, sur ce match. Donc on avait déjà eu des petits échos du foot turc sur l'agression d'un arbitre. Et ben ça continue. Voilà. Donc ça c'est le flop du week-end.
Ça continue encore et encore, comme dirait Francis Cabrel.
Francis.
Oui, belle imitation. Merci Anne-Françoise pour cette sélection. Erwan, qu'est-ce qui vous a étonné vous ce week-end, en bien ou en mal d'ailleurs?
Alors déjà on va commencer par le bien, c'est bien.
Oui.
Commencer par ce qui
est positif. C'est bien de commencer par le bien. C'est pour ça qu'on aime écouter cette émission, c'est pour apprendre des choses.
Oui, voilà, exactement. Donc notamment pour apprendre que Félix Lebrun, le petit Français au tennis de table, donc le frère de d'Alexis,
Alexis.
J'ai eu peur d'avoir un trou. Alexis Lebrun qui donc a atteint les demi-finales du Smash, de Grand Smash de Singapour, et qui arrive à la 5e place du classement mondial. Alors on peut se dire, oh c'est sympa, mais c'est pas une info si pertinente que ça. Et ben si, parce que le top 5 mondial, il était exclusivement concentré avec des joueurs chinois. C'est vraiment, il y a une hégémonie dans ce sport qui est absolument gargantuesque. Et voilà, du coup le jeune Français à 17 ans qui a réussi à arriver dans le top 5 mondial. Il y a très peu de joueurs qui ont réussi à le faire, notamment très peu de Français. C'est seulement le 4e Français de l'histoire à arriver aussi haut dans le classement mondial. Et c'est aussi seulement le 3e joueur le plus jeune à l'atteindre, sachant que les joueurs avant les plus jeunes étaient des Chinois. Donc c'est le premier joueur européen à arriver aussi jeune à ce stade du classement mondial. C'est un vrai bel effort et voilà, on espère qu'il va encore monter. Et pourquoi pas ramener une médaille au JO.
Ouais, c'est une médaille à la maison. Et petite anecdote, on va avoir une petite histoire autour des frères Lebrun dans l'entretien de la semaine prochaine. Voilà, c'est en préparation.
Vous me faites saliver.
Oui. On va parler tennis de table la semaine prochaine et vous le verrez, on aura une petite anecdote sur les frères Lebrun.
Du coup, j'en profite pour une mini question. Vous savez, Jean-Philippe Gatien, là, il était arrivé. C'était quoi son meilleur classement mondial? Vous le savez ou vous le savez pas? Moi, j'arrive pas à le trouver là, mais.
Je n'en ai.
Eh ben, Coraline, qui est avec nous ce soir, qui ne parle pas pour des raisons d'opération dentaire, va nous chercher l'info.
Voilà.
Impeccable.
Puisqu'elle a écouté ce que vous étiez en train de dire, Anne-Françoise. Voilà.
Moi, c'est le seul pongiste dont je connais le nom, en fait.
Ah oui, parce que c'est les années 80.
Un petit peu.
Voilà. Eh ben, écoutez, on met les journalistes de terrain sur le coup. Et Erwan, du coup, qu'est-ce qui vous a...
Nos reporters
attristé
à cette charge.
Oui.
Pour le flop, je voulais parler de la déclaration qu'avait David Gérard après le Rugby Europe Championship à Jean Bouin, au stade Jean Bouin à Paris. Parce que vous le savez, j'adore les petites équipes, j'aime beaucoup, notamment au rugby, voilà, qui est le sport cher à mon cœur. Et donc, ce week-end, il y avait les finales du Rugby Europe Championship qui, en gros, concernaient les 8 meilleures équipes
qui ne participent pas aux Six Nations. Donc, c'est-à-dire, il y avait la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et la Géorgie.
Que des équipes qui sont chères à votre cœur, parce que vous adorez les petites équipes.
À mon cœur, avec notamment la Pologne qui est descendue, qui sera normalement remplacée par la Suisse. C'est la francophonie du rugby et serait bien placée. Et du coup, David Girard, qui est sélectionneur de la Roumanie, a fait savoir après le match qu'il était déjà très content du fait d'avoir atteint les demi-finales, qu'ensuite il était un peu déçu, surtout pour ses joueurs, de ne pas avoir amené la médaille, sachant qu'ils ont perdu de 40 à 33, donc de seulement de 7 points dans un match digne du Super Rugby. Après le match, il s'est notamment plaint du fait que, bah oui, c'est bien d'avoir atteint les demi-finales, mais il y a quand même 20 joueurs auxquels il pensait qui n'ont pas été libérés par les clubs de Pro D2 ou National, même certains clubs de Top 14. C'est quand même quelque chose qui est très handicapant, se dire que il a eu une vingtaine de joueurs, c'est presque une feuille de match, qui n'ont pas pu être appelés par la sélection. J'ai pu contacter David Girard aujourd'hui et il m'a notamment précisé qu'ils auraient même pu jouer sans pied droit de formation parce qu'à un moment ils n'avaient plus de pied droit disponible.
Heureusement, c'est un club. Pas le jeu. Oui, mais les autres clubs en Europe aussi ou...
Alors c'est surtout des clubs français avec lesquels jouent les Roumains, mais il y a certains clubs qui ont été très très conciliants, notamment Aurillac, qui s'est passé de son deuxième pilier droit, donc Thomas Cretou. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec un seul pilier droit les derniers matchs de Pro D2, après en faisant venir chez les Espoirs. Alors ils ont un très bon centre Espoir, Aurillac, donc ils en ont profité. Rouen aussi, qui a été capable de libérer des joueurs. Mais voilà, il y a eu vraiment le jeu a pas été fait du côté des clubs français.
Pourtant, c'est pas des adversaires que la France va retrouver. Donc ils
auraient
pu. Oui,
pas du tout. Et en plus, il n'y avait pas de match de Top 14 ce week-end. Notamment un club de Top 14 qui aurait dit apparemment directement à David Girard qu'il n'était pas prêt à libérer son joueur alors qu'il n'avait pas de match à jouer ce week-end.
Oui,
ça, c'est quand même dur à entendre.
Voilà, c'est quand même dur à encaisser. C'est un vrai flop. On sent toute cette tristesse dans votre voix, Erwan, pour ces petites équipes. Quelqu'un qui a moins de tristesse, Julien.
Bah écoutez, en top, j'ai décidé de partir sur du basket parce que bon, on en parle pas très souvent.
On en parlait souvent,
justement la semaine dernière, on disait bon, on n'en parle pas trop. Et là, bah j'ai décidé de prendre de la NBA et notre Frenchie Victor Wembanyama qui cette nuit a livré une prestation colossale et a été le grand artisan de la victoire des Spurs contre les Brooklyn Nets, donc 122 à 115 après prolongation. Donc il faut savoir que le Français ces 3-4 derniers matchs était un peu en dedans, il était un peu en difficulté, mais ce soir-là, enfin cette nuit, il a livré un match avec 33 points, 15 rebonds, 7 passes, 7 contres. Enfin c'est faut dire
c'est
que
quelqu'un qui arrive.
Voilà, pour un rookie.
Donc
tout simplement à 20 ans, tout juste. Donc c'est quand même une prestation quand même assez folle. Et il faut dire qu'il n'en est pas non plus. C'est-à-dire que récemment, le mois dernier, il avait quand même réussi à conclure un 5x5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pouvoir dans un match marquer 5 points, faire 5 passes décisives, capter 5 rebonds, faire 5 contres et 5 interceptions. Donc pour un peu mettre les choses dans leur contexte, ça arrive à peu près une fois tous les 3-4 ans. Et lui, juste au match d'avant, il avait loupé le 5x5 de un contre, il me semble, ou une interception. Donc bon, faut dire que c'est un peu notre extraterrestre. Et il faut dire aussi que sûrement que voilà, là on assiste peut-être à sa pire saison de son histoire.
C'est la première.
En espérant que son corps voilà l'épargne un petit peu et qu'il n'est pas un peu.
Ceux qui ne connaissent pas Victor Wembanyama, c'est le Français, le basketteur qui va rouler, qui va tout détruire dans la meilleure ligue de basket au monde.
Bah, en tout cas, il est bien parti.
Oui, voilà, il est bien parti.
Et même si son équipe le suit pas trop, quand même.
Ouais, bah, ça sera à voir, hein. C'est une petite pépite, c'est le Mbappé du basket. Oui. Voire plus même.
Oui.
Il joue dans la même équipe dans laquelle a joué Tony Parker.
Effectivement.
Exactement, voilà, pour le clin d'œil.
Et Boris Diaw à l'époque. Petite info, est-ce que, oui, Victor Wembanyama est venu avec le futur maillot de l'équipe de France de foot? Pour l'Euro, au match que vous nous avez dit. Un beau maillot bleu avec un beau coq doré, bien gros, avec les deux étoiles. Voilà. Il me semble qu'il est venu avec ce maillot et que ça a été dévoilé un petit peu comme ça.
Exactement, avant le match, ouais.
Voilà, c'est la petite anecdote. Le basket qui présente le maillot du foot, c'est plutôt pas mal. Et votre flop?
Au départ, je comptais bien partir aussi comme Anne-Françoise sur les petits incidents qu'il y a eu en Turquie. Mais bon, là, on va parler rugby. Comme on en parle assez souvent et parler des Gallois parce que voilà bon les Gallois qui ont fini cuillère de bois, voilà, c'est quand même assez rare pour le souligner quand on voit cette équipe galloise qui
c'est pas arrivé depuis 20 ans.
C'est ça, voilà, depuis 21 ans que les Gallois voilà n'avaient pas connu une telle déroute. Bon après la défaite, bon voilà, on va dire que les Italiens ont mérité leur victoire, ils ont crânement joué leur match.
Ça fait un très beau tournoi.
Et donc voilà, donc Genre si les Gallois ont perdu, c'est pas voilà, c'est il faut pas minimiser, on va dire, la victoire des Italiens, mais bon, force est de constater que les Gallois ont été complètement en dessous. Pourtant pendant la Coupe du monde, il y avait quand même quelques signes qui faisaient penser que peut-être que le rugby gallois allait trouver un second souffle, avec notamment cette large victoire contre les Australiens en match de poule. Ben force est de constater que non. Bon après voilà, donc l'équipe est quand même assez jeune, il y a quand même un avenir, quand même un très bon sélectionneur, mais bon voilà.
Qui a posé sa démission et qui a été refusé.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc ça c'est assez cocasse.
Ouais, bah parce
sachant
que
qu'ils savent pas comment il va être payé puisqu'ils ont touché que 800 000 euros à la fin du tournoi et que ça va être compliqué de payer tout le monde avec ça.
Et que la pénalité de Thomas Ramos ça a rapporté 800 000 euros de plus à l'équipe de France.
Exactement. Ça c'est quand même le coup de pied le pied droit le plus cher de l'histoire de ce tournoi quand même. C'est magnifique. Voilà, on a parlé rugby, tennis de table, on a à peu près fait tout le tour. La petite info nous est parvenue. Merci beaucoup Coraline pour cette histoire de pongiste. Est-ce que vous pouvez reposer votre question à Françoise? On l'a perdu.
Oui, du coup, ma question c'était
la latence.
Quel était le meilleur classement atteint par Jean-Philippe Gatien, qui est, je pense, un des joueurs de ping-pong assez emblématiques en France des années 80-90. Et du coup, la réponse est
numéro 1 mondial en 92. Voilà.
Incroyable. Moi, j'avais 93, mais ok.
92, voilà. Coraline, elle est puisée l'information au fin fond d'Internet. Merci beaucoup Coraline, merci beaucoup Anne-Françoise pour cette précision. Évidemment, les tops et les flops, mention honorable pour le TFC. Moi j'avais noté ça, la campagne de com du TFC autour de leur 87e anniversaire.
Ah d'accord, pas sur le match en lui-même.
Non, pas sur le match en lui-même. Qui a déposé des affiches un petit peu partout dans la ville rose avec les années et une petite phrase qui résume l'année en question, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On pense à la relégation et à plein d'autres choses. Il y a l'affiche aussi de pendant la guerre avec le foot qui passe au second plan, beaucoup de choses comme ça. Ça retrace un petit peu l'histoire du football et du TFC dans toutes ces affiches. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique.
Oui. D'ailleurs ça serait sympa de savoir où en est cette histoire du fait que le palmarès du TFC soit jumelé avec celui de l'ancien club.
Et ça, c'est une question qu'on essaiera de poser si on réussit à avoir quelqu'un du TFC.
Eh bien, ce serait une question intéressante, je pense.
Eh bien, merci beaucoup, Erwan, pour valider mes questions. On va passer tout de suite à l'entretien, le face-à-face d'aujourd'hui.
Esprit Sport, le face-à-face.
Nouvel entretien olympique aujourd'hui avec Nicolas Rose, coprésident du Montauban Badminton Club. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler évidemment de badminton et de votre club. Tout d'abord, Nicolas Rose, combien de temps ça fait que vous êtes au club à Montauban ?
Alors, je suis joueur au club à Montauban depuis 2010. Après, en 2012, j'ai intégré ce qu'on appelle le bureau du club en tant que secrétaire. Et je suis donc président, coprésident depuis 2020. Voilà.
Ah oui, donc c'est une longue histoire d'amour avec le club de badminton de Montauban, du coup.
C'est un peu ça, on peut dire ça comme ça.
Du coup, vous êtes à la présidence du club de badminton de Montauban. Comment ça se passe en ce début d'année 2024 pour votre club ?
Eh ben, ça se passe pas mal du tout. On a donc le gros des licenciés se fait vraiment en tout début de saison, donc c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, on va dire. Donc sur cette période-là, on est reparti dans les standards habituels depuis quelques années au club, c'est-à-dire qu'on tourne à peu près à 240 licenciés. Donc on a rempli assez facilement les créneaux. Et après, donc ça démarre tout doucement et les compétitions se mettent en marche. Donc nous, le club, par contre, on organise une compétition, enfin un très gros tournoi, donc à Montauban, bien sûr, qui est un très gros tournoi qui est assez bien réputé sur la région, voire même plus que ça, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Et donc ça permet de lancer la saison, mais ça fait beaucoup de choses à organiser en même temps. Mais on a un tournoi qui, encore cette année, a fait largement le plein, puisque on était limité, donc on est obligé de limiter le nombre de joueurs, hein, mais on était le club à limiter les inscriptions, puisqu'on était plein un mois et demi à l'avance. Donc ça a encore été un très très bon début de saison.
Ah oui, donc vous avez dû refuser du monde parce qu'il y avait trop d'inscriptions.
Depuis plusieurs années, régulièrement, on refuse du monde parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de monde. C'est le premier tournoi de la saison, donc les gens sont assez motivés pour refaire de la compétition. C'est un tournoi qui plaît bien parce que on a des belles installations sportives, les gens sont, aiment bien venir ici. Et donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup de demandes, donc, ben, on est obligé de limiter parce qu'il faut que ça tienne sur le week-end, quoi.
Comment vous expliquez cet engouement du badminton à Montauban?
Bah alors à Montauban, je sais pas. Après le badminton au niveau national, c'est un sport qui est assez pratiqué, notamment parce que c'est un sport scolaire. C'est un sport qui se pratique principalement au collège, voire même peut-être déjà avant. Et c'est un sport assez accessible. On peut se faire plaisir assez facilement sans avoir besoin d'avoir un niveau. Déjà un bon niveau, et donc ça plaît énormément aux gens. Après c'est facile à jouer, c'est dans les gymnases, donc c'est bien parce que l'hiver ou quand il pleut, ben vous êtes à l'abri, et ça plaît, c'est assez ludique et ça plaît à beaucoup de monde. Donc au niveau national, le badminton est vraiment en forte progression depuis plusieurs années, et à Montauban ça marche très bien. Alors je sais pas exactement l'expliquer pourquoi, mais on va pas s'en plaindre.
Oui, ça c'est vrai. Et oui.
ça marche très bien. Donc, le club essaie aussi de faire en sorte que les licenciés soient se sentent bien au sein du club.
Oui, une vraie atmosphère conviviale.
Voilà, ça a l'air d'aller puisque régulièrement, tous les ans, on a à peu près le même nombre de licenciés qui se maintient et ça se passe bien.
Voilà, on est fidèle du côté du Montauban Badminton Club. Comment ça se passe pour ceux qui veulent venir découvrir ce sport à travers votre club?
Alors, ben, c'est un peu compliqué. Disons qu'en début d'année, on parle sur les saisons, hein, comme sur les années scolaires. En début de saison, on offre ce qu'on appelle des séances d'essai, c'est-à-dire que les gens peuvent venir sur un créneau spécifique pour voir sans matériel, juste en tenue de sport, et le club prête la raquette, les volants, et ils peuvent essayer sur une séance pour voir si ça leur plaît ou pas. Si ça leur plaît, après, il faut qu'ils prennent la licence, parce que la licence, c'est surtout l'assurance qui est dedans, qui vous permet d'être assuré en cas de blessure. Et donc après, il faut être licencié pour pouvoir jouer. Donc tout au long de l'année, après, quand les gens veulent venir voir, ben, ils peuvent venir uniquement regarder. S'ils veulent jouer, il faut forcément s'inscrire. Donc tout ça, c'est juste pour des problématiques d'organisation. Ben oui, puis aussi pour nous d'organisation, parce que techniquement, on pourrait faire une séance d'essai toute l'année. Mais en fait, c'est très compliqué au niveau organisation. Donc, comme il n'y a pas énormément de bénévoles pour s'occuper du club, on limite ça sur un mois en début de saison. Et après, les gens, s'ils veulent venir, ils peuvent venir regarder simplement, donc là il n'y a pas besoin d'assurance, mais après s'ils veulent pratiquer, ben il faut prendre la licence.
Justement, on voit que c'est un sport assez populaire. Du coup, vous le faites dans un gymnase et le problème de la place se pose assez rapidement s'il y a énormément de monde qui vient.
C'est ça. Donc on arrive à avoir quand même pas mal de créneaux parce qu'avec on travaille avec la ville de Montauban. On arrive à avoir des créneaux. On a quand même des créneaux 6 jours sur 7. Donc c'est quand même pas mal.
Oui.
Par contre, bien sûr, il faut limiter le nombre de places dans les créneaux. Et il y a des créneaux qui servent d'entraînement. Donc les entraînements, il faut limiter aussi. Donc entre les différences de niveau, les différences d'âge aussi, il y a des différentes répartitions de créneaux. Mais il y a forcément des moments où c'est toujours très plein, quoi. Et dans ces cas-là, il faut prendre son mal en patience.
Voilà,
si mais c'est vrai que oui, c'est un peu le problème, c'est que comme il y a beaucoup de demandes, il y a des fois on se retrouve trop de monde par rapport à la taille des gymnases. Quoi.
Ça, c'est le problème de la place, ça se pose assez vite quand c'est très populaire, surtout quand c'est aussi un sport d'intérieur. Je vous avais parlé des bénévoles. Combien il y a de personnes qui sont soit au bureau administratif, soit bénévoles dans le club de Montauban?
Alors sur le ce qu'on appelle le conseil d'administration, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration dont le bureau, donc secrétaire, trésorier, président. Actuellement, on est 8. Et après, il y a des personnes qui viennent donner un coup de main ponctuellement. Donc, je saurais pas trop estimer le volume, mais sur de gros événements, quand on organise un tournoi, par exemple, on arrive quand même à mobiliser les gens. On arrive quand même à se retrouver, je pense, à 20-25 personnes. Et après, c'est plus pour effectuer les tâches tout au long de l'année, c'est un peu plus compliqué, quoi.
Oui, donc c'est toujours là aussi ce problème d'organisation qui touche un petit peu tous les clubs amateurs, on va dire.
J'imagine, ouais. Oui, c'est compliqué, ouais.
Pour ceux qui, donc on a parlé aussi de cet espace compétition dans votre club, il me semble qu'il y a une équipe qui est en régional, les autres ils sont en division dans les interclubs départementaux, pardon. Comment ça s'organise? Est-ce que les meilleurs sont de suite en régionaux ou est-ce qu'ils font une phase en départemental d'abord? Comment ça se passe?
Oui, donc il faut d'abord une phase en départemental. Donc c'est les interclubs. Donc là c'est par équipe. Donc il faut former des équipes au sein du club. Donc au sein du club, comme Montauban, on a plusieurs équipes puisqu'il y a beaucoup de monde. On arrive à faire plusieurs équipes. Donc après, sur une saison, il y a une compétition au niveau départemental entre différentes équipes de différents clubs. Et à la fin, donc celui qui finit vainqueur du département, il rencontre généralement, ça fait plusieurs années, on rencontre le vainqueur du département du Lot. Et il y a ce qu'on appelle les playoffs, quoi, une phase finale, et le vainqueur a le droit de monter au niveau supérieur, c'est-à-dire en régional. Et ainsi de suite, on continue comme ça. Donc en régional, donc il y a deux niveaux en régional, il y a régional 2, donc c'est pareil, il faut pouvoir gagner au niveau régional 2 pour monter en régional 1, et ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau national, quoi.
Est-ce que peut-être à terme, je sais pas, dans quelques années, il y aura une petite ligne sur le site internet avec marqué Interclub National?
Et peut-être. c'est un peu l'ambition du club, mais c'est compliqué à mettre en place parce que déjà il faut trouver les joueurs parce que forcément plus vous montez dans le niveau compétition, plus les joueurs
plus doivent
avoir un niveau élevé. Et c'est ce que je disais, nous il y a pas que le club de Montauban, il y a beaucoup de clubs. Quand les joueurs deviennent à un niveau assez élevé, ils sont attirés par des très grands clubs, notamment sur la région toulousaine, et donc on n'arrive pas à garder les joueurs. Et après, c'est pareil, après, quand vous avez une équipe au niveau national, voire même déjà régional, les déplacements, puisque les rencontres se font au niveau régional, interrégional, voire national, donc le budget est aussi beaucoup plus conséquent. Donc il faut arriver à avoir des bons joueurs et aussi à avoir un budget derrière pour pouvoir financer ce genre de compétition, donc c'est pas facile. Mais l'ambition du club, ça serait bien d'avoir une équipe qui monterait, pourquoi pas, au niveau national.
L'aspect budget, on va en parler, mais la formation de talents à Montauban, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une catégorie jeune ou même tout petit, voilà, ou est-ce que vous avez vraiment une formation particulière à Montauban pour le badminton et pour garder ces talents justement?
On a deux entraîneurs salariés. Donc ils sont pas à plein temps, mais on a deux entraîneurs salariés et donc ils font des entraînements sur des créneaux. Donc pour les jeunes, justement, on fait par catégorie d'âge et on essaie de détecter les jeunes qui ont un potentiel qui nous paraît intéressant. Et s'il y a des jeunes qui nous paraissent intéressants, on va leur mettre un créneau spécifique sur une semaine, une séance spécifique avec un entraîneur, donc en très petit nombre avec un entraîneur pour essayer justement d'augmenter le niveau, de pousser le niveau et de les faire monter en niveau pour essayer de les faire atteindre le niveau le plus élevé possible. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est comme on parle des jeunes, donc on commence assez tôt, on peut commencer le badminton à partir de 5 ans. Donc c'est comme dans beaucoup de sports, vous détectez les jeunes à potentiel assez jeunes, quoi, justement. Et après, au bout d'un moment, quand ils commencent à être vraiment bons, le problème, c'est qu'ils commencent à être plus âgés et généralement, ils partent souvent pour les études dans d'autres villes. Et donc, quand vous partez faire les études dans une autre ville, généralement, vous allez jouer au club de badminton où vous faites vos études, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est l'aspect déplacement, surtout au niveau des études, c'est assez compliqué.
Et voilà.
Donc, on voit quand même que c'est un club familial, avec un esprit de camaraderie, mais la compétition, elle a un aspect important dans ce club.
Et oui. Il y a plein de personnes, de joueurs qui aiment la compétition. Et après, il faut pas oublier qu'un club, pour se faire un peu se faire voir au niveau au niveau de la ville, au niveau du département, ce qui compte, c'est les résultats. Donc il faut avoir aussi quand vous allez présenter une demande de subvention auprès de la mairie, par exemple, et que vous dites que vous avez une équipe qui est en régional 1, ça porte quand même plus que quand vous dites que vous avez juste des joueurs qui viennent pour faire du loisir entre eux et qu'il n'y a pas de compétition, quoi. Donc le haut niveau est un peu obligatoire, on va dire, pour prétendre à un statut un peu plus élevé, pour engendrer plus de un peu plus de subventions, ce qui permet d'avoir une meilleure source de financement et pour pouvoir proposer plus de choses aux adhérents. Quoi.
Ces subventions, ces financements pour les déplacements, pour accueillir des compétitions, comment vous faites pour vous en sortir? Parce qu'on imagine qu'il y a des partenariats qui doivent être faits parce que le seul paiement des licences ne suffit pas à faire vivre le club.
Ben, en grande partie, ici, le paiement de la licence finance en grande partie le budget du club. Après, on arrive à avoir quelques subventions, ben, notamment auprès de la ville de Montauban. Après, on arrive à avoir quelques partenaires, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, tous les clubs sportifs font pareil, quoi. Donc, c'est pas évident d'avoir des partenaires privés. Et après, la grande majorité du financement vient du fait de l'adhésion au club, quoi. Les gens, quand ils payent leur licence, donc il y a une partie forcément qui est reversée à la Fédération française de badminton pour tout ce qui est, ben, justement, assurance et frais de fonctionnement de la fédération. Et l'autre partie qui reste au club. Et c'est sur cette partie-là qu'on arrive à dégager un financement suffisant pour faire tourner le club. Alors, on essaie d'avoir, il faut trouver le juste équilibre entre une adhésion pas trop chère pour pouvoir que ça reste un sport accessible.
Que ce soit abordable.
Mais qui permettent quand même d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir proposer certaines choses, donc aussi bien aux compétiteurs qu'aux gens qui ne font pas de la compétition. On essaye d'organiser des moments de convivialité sur différents créneaux tout au long de l'année. Enfin, on essaye de faire différentes choses pour que ça corresponde un peu à toute la population de joueurs du club, quoi.
Peut-être que avec ce qui va arriver cet été, les Jeux Olympiques vont mettre un petit peu plus de lumière sur le badminton, même s'il y en a déjà beaucoup, on l'a vu à l'instant. Est-ce que peut-être vous pensez que après ces JO, alors peu importe ce qui va se dérouler sur les résultats, est-ce que vous pensez que justement il y aura peut-être un intérêt de la part de encore plus de pratiquants ou peut-être même des partenaires sur le badminton?
Je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée là-dessus. Je pense que oui, si ça apporte une... Alors, ça tout dépend des résultats, parce que plus les résultats de l'équipe au niveau France sont meilleurs, plus les retombées médiatiques sont importantes. On l'a bien vu au niveau du rugby, au niveau du volley pour les derniers Jeux Olympiques. Enfin, voilà, c'est vraiment le résultat sportif fait final de l'équipe de France, fait vraiment la différence. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir des bons résultats aux Jeux Olympiques au niveau France, je pense que l'engouement sera plus élevé l'année prochaine.
Donc voilà, on espère en tout cas que ça pourra mettre le badminton en avant et on espère aussi que l'équipe de France de badminton nous ramènera peut-être l'or. On espère. En tout cas, on espère, mais il y a beaucoup d'autres adversaires qui sont extrêmement forts et donc à mon avis,
oui,
ça va être compliqué. Facile, ouais. Est-ce qu'on espère une médaille?
Oh, une médaille peut-être, c'est envisageable. Après, vraiment,
la couleur,
une médaille
on verra.
D'or, je sais pas. Une médaille, je pense, c'est envisageable. Après, voilà, il y a des très bons sportifs au niveau badminton en France. Le problème, c'est qu'ils sont pas tout à fait au-dessus de tout le monde, mais ils s'en approchent quand même fortement.
Voilà, donc c'est bien dans ce genre d'entretien.
Il y a des nations qui sont vraiment très très fortes.
Dans cet entretien olympique qu'on fait depuis le début de l'année, on voit que dans tous les sports, eh bien, on a des chances de médailles. Alors peut-être pas d'être les meilleurs, mais on voit qu'on a des chances de médailles et ça fait plutôt plaisir à entendre. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour tous ceux qui veulent voir comment se déroule le badminton à Montauban?
Alors, ben, pour toutes les informations nécessaires, on a le site internet du club, donc c'est montaubad.com. Et à Montauban, donc on pratique sur deux gymnases, donc le gymnase, le Palais des Sports Jacques Chirac, et la salle multisport, qui sont l'une à côté de l'autre, hein, sur le complexe du Ramirou. Et donc voilà, vous pouvez nous rencontrer sur ces créneaux-là. Et si vous voulez les informations pour le contact ou surtout pour les horaires de pratique, vous allez sur le site internet. On a aussi une page Facebook où il y a toutes nos informations régulières. Et n'hésitez pas à venir à nous contacter ou à venir voir si vous voulez essayer le badminton. Ça sera avec grand plaisir.
Et bien voilà, merci beaucoup Nicolas Ross d'avoir été avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions. Et bonne chance pour cette année 2024.
Merci beaucoup.
Voilà, alors maintenant, c'est la question qui tue un petit peu, c'est Erwan, le badminton, quand est-ce qu'on s'y met?
Alors moi j'avoue que je suis pas un friand de ce sport, mais je suis apte à changer d'avis, pourquoi pas.
Parce que Erwan, si vous ne le savez pas, est notre sportif sans frontières. Il y a les reporters sans frontières et Erwan, c'est un petit peu celui qu'on a envie d'essayer sur tous les sports, parce qu'Erwan il est multitâche.
Voilà. C'est pas moi qui me propose, c'est on a envie de m'essayer sur tous les sports.
Ben oui, parce que je suis sûr que Voilà. On ramènera peut-être pas de médaille avec vous, mais
au moins on rigolera bien.
Ouais, au moins, et ça c'est déjà pas mal, parce que quand il n'y a plus le ballon, il y a toujours les copains. Dans quelques instants, on va se retrouver pour une chronique avec Anne-Françoise Marie. On parlera équitation et polémique.
Et
ça
oui.
arrive juste après Joe Dassin.
Son gardien du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière.
Là, c'était moment karaoké. Là. Ah, je vous cache pas que dans le studio, Erwan, il a tout donné. Là, c'était beau. Là.
Il faut faire une vocalise.
Ah, mais là, c'était très bien. Là.
Ah,
mais
écoutez, je suis prêt. Enfin, prêt pour le débat.
Enfin, prêt pour le débat, mais avant
ça, la chronique.
Yeah, il fait ça bien quand même. C'est bien, parce que la chronique, elle va pas trop porter à sourire.
Esprit Sport, la chronique.
Elle va pas porter à sourire, puisqu'on va parler. Équidé, sport équestre et polémique.
Eh oui, on va parler polémique. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler là d'une polémique qui est sortie ces derniers jours, là ces dernières semaines autour des sports équestres, autour des Jeux Olympiques. En fait, il y a une demande des militants animalistes et antispécistes qui demandent en fait de faire annuler les épreuves équestres abusives dans le cadre des JO. Et en fait, c'est l'association de défense des animaux PETA qui a demandé ça suite en fait à une des images assez choquantes qui avaient été diffusées pendant les JO de Tokyo, pendant l'épreuve du pentathlon. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une cavalière allemande et son entraîneuse qui avait été accusée d'avoir maltraité un cheval. Alors, pour rappel, le pentathlon moderne, il y a 5 épreuves. Bon, ça, Jonathan, je pense que vous le saviez, parce que comme vous avez sûrement fait grec ancien dans votre jeunesse,
mais évidemment.
Penta, c'est 5, voilà. Et donc, dans ces 5 épreuves, il y a saut d'obstacle. Donc, en fait, il faut faire un parcours de CSO d'1m20, où en plus, l'athlète découvre son cheval 20 minutes avant l'épreuve. Il a 10 minutes pour le monter sur le plat, 10 minutes pour passer quelques obstacles. Et après, hop, c'est parti. Il se trouve que pour cette cavalière allemande, Anna Schle, son cheval qui s'appelait Seinbol, en fait, a refusé de prendre le départ. Il était bloqué. En fait, elle était sur le cheval, en larmes, impuissante. Elle était première de l'épreuve, hein, à ce moment-là. Et là, elle voyait clairement la médaille d'or s'envoler. Le cheval, lui, il était en sueur, les yeux exorbités, il se levait. Elle le cravachait, elle l'éprenait. Et en fait, il y a son entraîneuse qui est venue auprès de la barrière, qui a encouragé sa cavalière et qui a, je cite, encouragé sa cavalière à tabasser le cheval.
Ah oui, quand même.
Et qui lui a donné un coup sur la croupe. Alors, moi, j'ai vu coup de poing dans les côtes. En fait, non, elle lui donne un petit coup sur la croupe. Finalement, le cheval finira par partir.
On n'est pas tous calés équitation. Surtout moi, je vous cache pas que la croupe, ça m'a perdu.
C'est les fesses.
Ah, d'accord.
Du cheval. Okay. Voilà. Il se trouve que ce cheval va finalement.
Pas couper non plus, donc,
oui, je suis ni spécialisé en équitation, ou là.
Ni en articulation.
Ni en boucherie non plus, donc j'avais aucun moyen de le savoir.
En boucherie.
Voilà, c'est ça. et en fait, la cavalière allemande qui était première avant l'épreuve, elle finira 31e. À cause de l'équitation. Alors, bon, le pentathlon, ça dépend pas de la Fédération des sports équestres, mais l'association animaliste pointe aussi du doigt des épreuves équestres, en particulier des images un peu choquantes où on voit pareil, c'est pendant les JO de Tokyo, un cheval qui saigne des naseaux. Bon, il se trouve que ce cheval a été disqualifié, hein. Mais du coup, les images tournent en boucle en ce moment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes de télé qui ont relayé un petit peu cette info-là. Alors évidemment, la Fédération française a bien compris qu'il y a un contexte brûlant et que elle doit réagir, en fait, elle doit répondre. Et donc, ils mettent en avant, la Fédération française, la création assez récente d'une charte du sport de haut niveau, d'un guide de bonnes pratiques, d'une cellule du bien-être animal. Tout ça, c'est pour montrer que les cavaliers de haut niveau, ils sont quand même très attentifs au bien-être de leurs chevaux et que les règles, elles sont faites pour protéger les chevaux. Clairement, les associations de défense du droit des animaux, elles jouent beaucoup sur l'émotion en fait suscitée par des images qui peuvent être choquantes. Mais moi, pour être un petit peu cavalière, je sais que les cavaliers.
Françoise, un petit peu.
Oui, bah je sais monter à cheval, quoi.
Oui, mais c'est pas. Ça pourrait tout le monde.
Ça pourrait être un sport qu'on essaye, par exemple, Erwan. Ça pourrait être sympa.
On va me mettre sur.
Non, mais après, est-ce que vous montez à cheval, Erwan?
Ça, je l'ai déjà fait dans ma vie, mais après voilà, et s'il faut le refaire, je le referai, mais voilà, à voir dans quelles conditions. Je suis pas sûr de pouvoir sauter les obstacles.
Voilà, mais je suis sûr qu'Anne Françoise sait le faire.
Oui.
Eh ben faire. Voilà.
Pas trop ça, mais ouais. ouais, et donc ce que je voulais dire, c'est que du coup tous les cavaliers que je connais, leur cheval, c'est un de leurs meilleurs amis, ils y font hyper attention, ils prennent soin de lui pour lui donner les conditions les plus proches de la nature possible. Et même au haut niveau, ça se fait de plus en plus.
Oui, c'est une vraie relation. C'est pas juste un animal avec un maître qui le fouette, quoi. C'est une vraie relation entre le cheval et son cavalier.
Complètement. En plus, le cheval, c'est un animal grégaire, un animal qui est censé marcher dans la nature toute la journée, brouter toute la journée aussi. Donc en fait, il peut pas être, on peut pas le traiter comme un chien, c'est-à-dire que, enfin comme un chien, je veux dire comme un animal domestique. Il faut qu'il marche tout le temps. Il peut pas être enfermé tout le temps dans son box. Il faut pas qu'il mange que 3 repas par jour. Il doit manger un petit peu tout au long. Voilà, il faut qu'il gambade. Il faut qu'il s'exprime.
L'image du cheval qui gambade dans les prés.
C'est ça. Alors après, il se trouve que c'est une réalité qu'il faut frotter aussi au sport de haut niveau. Donc clairement, il y a certainement des cavaliers moins scrupuleux que d'autres qui vont utiliser des techniques pour améliorer le geste de leur cheval, par exemple en serrant les guêtres des postérieurs, donc des pattes arrière, en les serrant très fort pour que le cheval ait mal quand il prend son impulsion et donc qu'il lève mieux les postérieurs. Il y a aussi une technique qui s'appelle barrer les chevaux, c'est-à-dire que quand le cheval saute l'obstacle, à l'entraînement évidemment, pas en compétition, bah en fait on monte la barre. L'entraîneur, il monte la barre et comme ça, le cheval se tape les antérieurs cette fois-ci, donc les pattes de devant dans la barre, et la prochaine fois, il lèvera les jambes plus haut. Donc ça, c'est des méthodes qui sont interdites. La problématique, c'est que si on peut à peu près les contrôler dans les compétitions de haut niveau, c'est un petit peu plus dur dans les compétitions d'amateurs ou les compétitions club, même si tous les enseignants font très attention à ça, évidemment, c'est encore plus dur de les contrôler à l'entraînement chez les cavaliers. Voilà, donc en fait, il y a tout plein de règles qui sont mises en place pour protéger les chevaux, que ce soit au point de vue aussi des harnachements, des morts moins dures. L'idée, c'est d'arrêter de considérer les chevaux comme des machines et de les considérer vraiment comme des êtres vivants. Alors moi, ce que je tiens à souligner, c'est que la problématique là, c'est peut-être surtout la réforme du pentathlon. Parce que le pentathlon moderne, je ne sais pas si vous avez une idée des épreuves, mais c'est du tir, de l'escrime, de la course, de l'équitation et de la natation. En fait, c'était toute la base des compétences sportives nécessaires à un officier de cavalerie à la fin du 19e siècle. Donc, on peut peut-être se dire qu'on peut peut-être faire évoluer un peu les choses. En fait, depuis les épreuves de Tokyo, il y a un projet qui est de remplacer l'équitation par une course à pied d'obstacles, mais à pied quand même. Voilà.
Une course à pied d'obstacles.
Une course à pied, bah comme du steeple, quoi.
D'accord. Ah oui, toujours à cheval.
Mais non, à pied.
À pied.
Oui, non, mais. À pied d'humain.
À pied d'humain, mais il y a plus de cheval, du coup.
Avec des chaussures, on vous rassure
non.
quand même.
Sans
cheval. De moi. Non mais parce qu'on a enlevé le karaté pour le breakdance. Donc, je me pose des questions. Quand on enlève une discipline, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Ça se pose la question.
Ouais, alors, il y a eu des projets variés. Il y en a qui ont proposé de l'escalade. Il y en a qui ont proposé du VTT. Pour l'instant, a priori, on s'orienterait, vers la course d'obstacles, mais à pied. Mais par contre, ça ce sera pas avant, ce sera après les JO de Paris. Donc aux JO de Paris, il y aura bien de l'équitation qui sera du coup à Versailles, c'est-à-dire à côté des installations des épreuves équestres, parce que bah du coup on a tout le matériel pour les chevaux. Et il faut savoir que les chevaux sont déjà en cours de sélection, parce que du coup les chevaux du pentathlon, ce sont pas les chevaux des athlètes, ce sont des chevaux qui sont sélectionnés en ce moment même par le cadre noir de Saumur.
Oui, on en a parlé dans la chronique que vous nous avez faite sur l'équitation, la chronique l'interview même.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc voilà, moi
on
ce qui
pas grand chose
donc...
à l'équitation, mais quand vous faites une chronique, on l'écoute. Hein.
Ah bah ça me fait plaisir. Donc voilà, reste à voir si les autres épreuves équestres vont être pointées du doigt justement par ces associations là, parce que il y a quand même pas mal de gens qui sous le coup un peu de l'émotion et pour renforcer un peu cette émotion dans l'opinion publique pointent du doigt même rien que le fait de monter un cheval en fait. À voir, à suivre.
Affaire à suivre. J'aime bien dire ça parce qu'on voit qu'il y a toujours des évolutions dans le sport. Et
comme ça, on peut faire des versions 2 des chroniques et ça marche très bien.
Ouais. Moi, j'ai une question, si jamais. Parce que j'ai bien écouté la chronique d'Anne-Françoise et je me demandais, vu que ça ne dépend pas de la fédération d'équitation, est-ce que ça veut dire qu'il y a une fédération de pentathlon?
Il y a une fédération de pentathlon, tout à fait. La fédération de pentathlon moderne.
Je pense, peut-être à tort, hein, mais et peu pratiquée quand même.
Ouais, j'ai pas trop d'idées nombre de licenciés. Par contre, l'équitation, c'est une des plus grosses fédérations de France.
D'accord.
C'est la troisième derrière le foot et le judo, je crois.
Ah bon?
Eh oui.
Bah écoutez.
Oui, parce que en fait, les cavaliers, même ceux qui ont leurs chevaux chez eux, ils prennent des licences en fait pour une question d'assurance dans la pratique du sport.
Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de licenciés.
Non, mais après du coup, c'est quand même des gens qui montent à cheval.
Oui. Parce que tomber du cheval, ça peut faire mal.
Ah oui, c'est hyper dangereux. En fait, c'est un sport qui est relativement dangereux. Il y a beaucoup d'accidents.
Ouais. Ah bah voilà, maintenant, j'ai plus du tout envie de faire du cheval, ni d'envoyer Rouen faire du cheval.
Vous voulez pas me casser?
Non mais vous inquiétez pas, hein, les chevaux ils sont gentils. Hein.
Vous avez plus de risque de me casser en m'envoyant à l'haltérophilie qu'en m'envoyant au cheval. Hein.
Oui, l'haltérophilie c'est beaucoup plus drôle parce que vous vous faites mal tout seul.
Merci. À cheval ça peut arriver aussi. Hein.
Mais je m'en voudrais de faire mal au cheval.
Oui, ça c'est plutôt le cheval que je mets quelques pour Erwan, mais bon.
Si vous voulez quelques infos, le nombre de licenciés en France du pentathlon moderne, c'est 2000.
D'accord.
On est un peu loin des 600 000 de l'équitation, je crois.
C'est vrai. Eh bien voilà. On apprend toujours des choses dans les chroniques.
C'est incroyable.
Oui. Je sais plus quoi dire. Dans quelques minutes, on va peut-être pronostiquer un match, mais tout de suite, on débat. Alors le cheval c'est trop génial, mais quand on bat les Anglais à domicile et qu'en plus de ça on leur prend la deuxième place, c'est encore mieux. Alors finalement, que retenir de ce tournoi Destination 2024 qui n'a pas l'air si terrible que ça, au final? Coup de cloche, et c'est top départ.
Non, effectivement,
attendez, Erwan, il y a peut-être Anne-Françoise qui voulait...
Ah.
C'est du décalage.
Ouais, c'est ça, il y a peut-être un peu de décalage. Je dirais pas terrible, mais pas flamboyant non plus, hein. Clairement, on est un peu dans le bof, quoi. Il y a eu, c'était un peu les montagnes russes. Il y a eu du bon, il y a eu du très inquiétant. Moi, j'ai été super enthousiaste par la venue des plus jeunes joueurs. Ça, je pense que ça a été vraiment le point positif du tournoi, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attendait un peu, hein. Et donc Fabien Galthié a enfin essayé des nouveaux joueurs. Donc, alors oui, ça fait de la concurrence. Oui, on se demande quand Dupont et Ntamack vont revenir, quand Ramos va retrouver sa place de 15, qu'est-ce qui va rester. Mais moi, je trouve que la concurrence c'est très sain, surtout dans une équipe nationale. Donc c'est chouette. Moi, je suis super fan que des jeunes arrivent. On a pu suivre aussi les U20 pendant leur tournoi, parce que maintenant ils sont quand même bien diffusés. Et ben on voit que ouais, ok, c'est un peu brouillon parce qu'ils sont un peu jeunes et tout, mais il y a des bonnes choses qui arrivent et ça donne des bonnes perspectives pour l'avenir, je trouve.
Alors des jeunes qui arrivent, c'est bien, mais quelqu'un qui n'aime pas les jeunes qui arrivent, qui aime bien quand les choses elles sont comme ça, et Juan.
Mais moi j'aime bien les jeunes qui arrivent. Je vous fais la pub de deux porteurs depuis le début de la saison.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est mais après les jeunes qui n'ont pas été forcément brillants d'ailleurs sur leur Six Nations, mais qui, comme dit à votre phrase, ont montré de très belles choses avec le ballon. Au moins les quelques défaites, les trois défaites il me semble qu'ils ont eu sur le tournoi, leur apprendront peut-être à avoir un peu plus la tête sur les épaules, surtout pour la Coupe du Monde du 20, qui est le tournoi principal chaque année. Donc, mais après, pour revenir du coup à ce tournoi destination 2024, si on parle que de l'équipe de France, bah, je rejoindrai un peu l'avis de Anne-Françoise. Il y a du bof, c'est-à-dire que on peut clairement pas occulter les premiers matchs. Et je dirais même de manière générale les trois premiers matchs, parce que même si on gagne en Écosse, on gagne grâce à l'arbitrage.
À l'arbitre, hein, quand même.
Un don du ciel, on dira plutôt. oui, non, c'est sûr. Et même le don du ciel, il revient contre l'Italie, hein, pour le match nul.
Oui, ouais. Aussi, parce oui. Là, ça veut dire qu'il y a le va et le vient, quoi. C'est bien, on a les deux.
Ah non, mais on a eu beaucoup, beaucoup de chance sur ce tour de destination. On aurait pu partir sur trois défaites dans un premier temps. Au final, on part sur un tournoi, on ne perd que contre l'Irlande. Bon, je pense qu'il faut prendre la confiance et il faut se dire voilà, on a fait un tournoi qui était au final pas si mal, et surtout se dire que l'équipe de France a su se rattraper. On est en mesure, après les échecs, de se relever, de reconstruire quelque chose avec les jeunes, avec Nolan Le Garec, avec l'arrivée de Méafou, avec une deuxième ligne qui semble totalement tracée pour les quatre prochaines années, avec Flamand Méafou, avec une troisième ligne dans laquelle on a toute confiance, malgré le fait que Jelon se soit malheureusement reblessé. Ça veut dire Cross, Olivon, Aldrit, c'est quelque chose qui bouge pas. Même la première ligne, au final, on a voulu tester Movaca au début. Marchand paraît être un choix au final plus judicieux, même s'il a pas été non plus flamboyant, mais il a été beaucoup plus sûr.
Jalibert, Lucu, tout ça on oublie.
Non, Jalibert, je pense qu'il reviendra dans un rôle de remplaçant à l'avenir.
Mais encore,
parce qu'effectivement Ramos a montré tellement de bonnes performances à l'ouverture qu'on peut penser que il démarrerait en 15 et que possiblement si Ntamack doit sortir, il glisserait après en 10. Et peut-être qu'on pourrait mettre un Louis Bielbiaré, ou pourquoi pas un Léo Barré.
Ou un Léo Barré, ouais.
Qui ont montré de très belles choses.
Par contre, Léo Barré, il faut sauter hein, quand on prend les ballons. Voilà. Il faut arrêter.
Oui, bah, ceci dit, il n'était pas là pendant la Coupe du Monde et les ballons, on ne les a pas rattrapés non plus. Hein, donc,
non, mais c'est sûr. Mais c'est
l'Afrique du Sud.
C'est pour ça que Brice Dulin aurait été un bon choix à la Coupe du Monde.
Ah oui, et c'est vrai.
Maintenant, il est un peu. Malheureusement, sa carrière internationale est derrière lui. Et voilà, il faut essayer de trouver une nouvelle solution. Mais la preuve en est que sur les derniers matchs de station, on était capable de trouver la solution.
C'est bien. On trouve des solutions après un début de tournoi destination poussif. Julien, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce tournoi?
Bah, moi, je peux être que d'accord avec Anne-Françoise et Erwan, hein, pour le coup. C'est vrai que bon, on avait quand même plutôt très mal commencé. En même temps, on a commencé avec beaucoup d'incertitudes.
Ah oui.
J'allais dire, donc, c'était un peu, voilà, comment faire sans Dupont? C'était un peu la question à faire.
Dupont dépendant, c'est assez terrible, quand même.
Sur les premiers matchs, on l'a vu. Et, notamment, on va pas non plus tirer sur l'ambulance, mais bon voilà, c'est vrai que Lucu n'a peut-être pas ce profil là pour pouvoir assurer la première partie du match, je veux dire là. Mais sinon l'équipe de France est plutôt bien rattrapée, les petits nouveaux donc Méafou, Le Garec qui ont parfaitement assuré, qui ont parfaitement rempli leur rôle. Peut-être un petit peu de porter sur les deux derniers matchs qui étaient peut-être un petit peu en difficulté, mais bon ça après voilà, c'est la jeunesse et il a tout l'avenir devant lui.
Il jouait pas son poste aussi.
Et il jouait pas son poste, c'est vrai qu'il joue deuxième centre.
Oui, Ramos, là, il était pas son poste centre. Non plus, il est très bon aussi. Hein.
Qui?
Ramos. Oui.
Mais Ramos a fait trois finales de top 14 en tant que 10. Vrai. Donc bon, il a quand même l'expérience des grands matchs en tant que 10.
On vous a coupé, Julien.
Oui, non, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
C'est juste pour lancer une pique en disant, un petit peu.
Non, mais sinon, voilà, on va retenir du positif. Surtout sur ces derniers matchs, surtout bah, le dernier match contre l'Angleterre, j'allais dire, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
défensivement,
vu.
Défensivement, c'est pas
ouais.
ça. Hein.
Ah non, là, ça pour le coup, je suis d'accord que défensivement, c'est toujours aussi compliqué. On se fait perforer tout le temps au centre du terrain, on se fait avoir. Et les défenses, surtout sur les extérieurs, bon, ça c'est encore des choses à travailler. Mais sinon, oui, j'étais content de revoir cette équipe de France qui contre l'Angleterre et même contre le Pays de Galles, qui sait finir ses matchs. Que contre l'Italie, on a vu, on était bon. Après, bon, certes, il y avait l'infériorité numérique, mais que ce soit contre l'Écosse, que l'Italie, même l'Irlande. Enfin, on n'a pas été en mesure de, voilà, genre les finisseurs, comme aime bien le dire Galtier, n'ont pas eu d'impact comme ils ont d'habitude. Et là, justement, sur ces deux derniers matchs, on a vu un petit boost. Et puis voilà, donc cette équipe de France qui autrefois, quand elle nous faisait rêver pleinement. Bah on a retrouvé voilà cette équipe qui avait l'envie de gagner et elle l'a parfaitement montré contre l'Angleterre et ce coup de pied à 800 000 euros de Thomas Ramos.
Ah oui, ça c'est incroyable. Ça. Si moi je n'ai confiance qu'au pied droit de Thomas Ramos. Voilà, c'est assez incroyable.
Bon, après on dit le pied droit de Thomas Ramos, il avait quand même loupé une pénalité 5 minutes avant. Hein. Pas non plus.
Oui, mais il a mis celle qui comptait.
C'est ça.
Oui, non mais d'accord, mais s'il avait mis celle d'avant, il y aurait peut-être pas eu d'essai. Enfin,
oui, ben,
tout est possible.
Si on refait le monde, mais il a mis celle qu'il fallait et voilà.
Il a mis celle qu'il fallait.
Ce qu'on retient de ce tournoi d'assignation, c'est quoi? C'est la remobilisation d'une équipe, c'est l'apparition, la bonne performance de certains qu'on n'attendait pas, même si on a vu un peu nos timides, c'est se sortir de cette Dupont-mania. C'est une question collégiale.
La bonne prestation de ceux qu'on attendait, je dirais. Parce que le Garek Béafou, ça fait un moment qu'on sait qu'ils vont arriver en équipe de France, et on n'a pas été déçus. Alors que, comme disait très justement Julien, Deporter effectivement un peu déçu de ce qu'il a pu montrer, mais c'est quelqu'un qui, on va dire, était plus, c'est l'homme fort de la saison, donc on l'a fait venir à un moment où il était bon. Mais ceux qu'on attendait depuis un moment, les Méafou, le Garek, on savait qu'ils allaient faire cette génération, passage entre 2023 et 2027, ils ont pleinement répondu aux attentes, et ça, ça fait plaisir. Et encore une fois, je tiens à dire, Romain Taoufifénois, William Servat avait raison, c'est peut-être le meilleur remplaçant au monde, parce que les matchs où il joue, vraiment, il y a une différence, comme le disait
il y a une différence, ouais.
Julien, sur l'apport des finisseurs et le reste.
Voilà, je vois dans ma boule de cristal l'année prochaine le tournoi destination. Il est pour la France.
C'est loin quand même.
Waouh.
Ouais. David, c'est un peu.
Ouais, mais le Garek,
c'est un peu ambitieux de vouloir pronostiquer ça, quoi, quand même.
Oui, bon, après c'est un petit peu une bouteille à la mer, mais.
Pourquoi pas.
Voilà, quelqu'un qui est.
Non, mais moi je pense qu'il faut voir aussi comment l'équipe.
Il faut savoir se projeter de temps en temps.
Comment l'équipe elle se recompose en fait après les blessures, après
le retour de Dupont,
après les JO et Antoine Dupont au 7. À mon avis, il va falloir voir justement comment ceux qui étaient installés, très installés, ils vont vivre le fait qu'il y ait du Nolan Grec qui arrive derrière, du Ramos qui peut bouger en 10. Enfin, bon après ça va peut-être se recomposer aussi un petit peu à Toulouse déjà, mais moi je pense que c'est intéressant parce que justement ça fait un petit peu bouger les lignes. Je me demande en fait si la reprise un peu de caractère, parce que moi je trouve que ce qui manquait à l'équipe de France sur le début du tournoi, c'est un manque de caractère. Les mecs, ils étaient apathiques, ils avaient pas d'idée. Il y en avait l'impression qu'ils étaient perdus, qu'on leur avait donné une règle de jeu, enfin une directive de jeu, ça marchait pas, mais ils savaient pas réinventer un nouveau truc. Et ça, c'était hyper frustrant. Enfin, en tout cas, moi, j'étais très frustré de ça parce que je me disais, mais quand même, c'est des gars, c'est des pros, ils savent faire ça tous les week-ends. Et là, ils n'ont pas été capables de se réinventer, enfin, de se prendre en main, en fait. Et je trouve que sur les deux derniers matchs, justement, on a vu plus de caractère. On a vu plus de décisions, plus d'envie, plus de un petit peu de folie là.
C'est peut-être Arletaz qui a ramené ça un petit peu, ce bomber le torse et aller mettre la tête où on mettrait pas les pieds.
Ouais, est-ce que c'est pas un peu la pression des jeunes aussi?
Peut-être aussi.
Vous voyez,
c'est
le
vrai.
Fait de se dire eux ils amènent un peu de folie et puis bon les vieux ils se disent attends faut peut-être
les vieux. On peut pas les appeler les vieux, il y a encore quelque chose.
Non mais
à
bon,
faire,
mais... je mets des guillemets. Hein. Voilà. Sont jamais aussi vieux que moi mais.
Eh ben merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. La semaine prochaine on parlera encore de raquettes dans l'entretien olympique de la semaine prochaine, mais plutôt de tennis de table avec Albaran Molinard, président de l'US Montauban Tennis de Table, qui sera au micro d'Esprit Sport pour nous parler de son club, de sa passion et des épreuves au JO l'été prochain. Merci beaucoup Anne-Françoise.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Erwan, merci Julien.
À bientôt à tous.
Merci à vous. Merci.
Merci. Et merci Coraline d'être venue, de ne pas avoir parlé, juste réaliser l'émission. Voilà.
Avec plaisir.
Et ça, ça lui a demandé beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même radio. Bonne semaine.